Un très bon début de semaine à vous tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a des grands dossiers là, qui ouvrent la semaine en matière d'actualité. Et en entrevue sans filtre, j'aime bien vous prévenir comme ça à l'avance. Vers 11h30, nous recevrons un comédien qui a fait beaucoup parler de lui, en particulier parce qu'il a été largement parodié dans le Bye Bye pour ses pubs de Bon Burger. C'est Michel-Olivier Girard qui va être avec nous en sans filtre. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à lui poser comme question. On va avoir également Maître Yves Jolicoeur sur toute la question des frais de condo, parce que vous avez vu, il y a une nouvelle loi qui vient d'entrer en vigueur et les propriétaires de condo vont peut-être avoir des nouvelles augmentations de frais de condo. En tout cas, ils sont soumis désormais à de nouvelles obligations. Ça touche pas mal de monde au Québec et en particulier dans les grands centres. On va revenir sur la question des décrocheurs, mais avant, c'est vraiment sur la violence conjugale que je veux débuter cette émission parce que vous avez vu, là, depuis ce dernier drame la semaine dernière, évidemment, le gouvernement du Québec est pressé d'agir enfin contre la violence conjugale. Ça fait des années qu'on a l'impression de se répéter. Je vous avoue, là, chaque fois que j'en parle, puis je pense que les collègues vivent la même chose, on a l'impression de ne plus être capable de trouver d'autres mots pour vous décrire ce qui se passe, pour vous faire comprendre un peu ce qui se passe, pour essayer tous d'ailleurs de comprendre un peu comment ça se fait qu'on n'arrive pas à circonscrire ce genre de situation dramatique dans les familles. Ne serait-ce qu'au cours des trois derniers mois, là, ça fait même pas trois mois, depuis la mi-octobre, si on fait la nomenclature de ces drames qui ont touché le Québec, c'est assez impressionnant. Vous me permettrez de le faire rapidement. Le 22 octobre dernier, 22 octobre 2019, il y a eu évidemment des meurtres dans une famille. C'est un père qui a assassiné ses deux petits et son ex-conjointe avant d'aller se suicider. Il s'était lancé en bas du toit de l'hôpital de Joliette, vous vous souvenez. Trois semaines plus tard, le 16 novembre, c'est Linda Lalonde, 48 ans, qui a été tuée à l'arme blanche par son conjoint. Dispute dans leur domicile à Salaberry de Valleyfield. C'est l'homme lui-même qui s'était rendu à la police pour confesser son geste. Trois semaines plus tard encore, on dirait que c'est aux trois semaines au Québec par les temps qui courent, là, ce sont les corps de Dahlia et de ses deux enfants de 2 et 4 ans qui ont été retrouvés dans une résidence à Pointe-aux-Trembles. Deux semaines plus tard, le 25 décembre, meurtre et suicide, un homme qui a tué son ex-conjointe avant de retourner l'arme contre lui. Il y avait deux des enfants du couple, deux des ados qui étaient là sur place au moment où c'est arrivé. La famille avait quatre enfants. Et ça, c'est, hein, 25 décembre, c'est le lendemain. C'est le lendemain du jour, de la veille de Noël. Là. C'est le matin du jour de Noël. Le matin, là, 10h45. Tu t'affames puis tu t'enlèves la vie. Qu'est-ce qui a pu générer ça? Ça peut pas être une chicane ordinaire qui fait péter la coche d'un homme comme ça. Et bien sûr, ce dernier meurtre, la semaine dernière, le 16 janvier, Benoît Cardinal, qui est donc accusé du meurtre non prémédité de sa conjointe, Jaëlle Quentin, 33 ans, et qui laisse six enfants complètement abasourdis et traumatisés parce que les enfants, certains en tout cas, semblent avoir été témoins de ce drame. On va essayer de répondre à cette question. Je vous avoue, j'en ai plus vraiment de questions à part essayer de voir, y a-t-il une solution pour éviter un drame, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, puis j'espère que vous allez être nombreux à réagir à ça. Dans la grande région de Montréal, vous pouvez d'ailleurs nous joindre en faisant le 514-790-9850 et de l'extérieur, sans frais, le 1-866-790-9850. Chantal Arsenault est présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Bonjour, Mme Arsenault.
Bonjour.
Vous avez d'ailleurs pressé de plus en plus le gouvernement d'agir parce que vous dites on les connaît les solutions. J'ai presque été surprise de vous entendre rappeler ça ces jours-ci, de dire on a les solutions, ça prend plus de fonds. Pour vous, c'est une question d'argent?
Ben pour nous, c'est une question d'argent quand c'est question de sensibiliser une population au complet. Hein. Vous l'avez dit, c'est pas des chicanes ordinaires. C'est de la violence conjugale. Mais pour ça, il faut que les gens soient informés des différences entre la violence conjugale et une chicane ordinaire. Il faut pour ça que nos professionnels soient formés aussi. Parce que à tous les jours, nous, on entend des femmes, puis d'ailleurs, une ex-hébergée d'ici mentionnait en fin de semaine, « Moi, j'ai vu des psychologues pendant 5 ans, on ne m'a jamais dit que c'était de la violence conjugale que je vivais. C'est en maison d'hébergement que j'ai compris ce que je vivais, que j'ai pu m'en sortir. C'est révélateur. Donc oui, il faut de l'argent, il faut de l'argent de façon urgente pour former, informer la population. Qu'on soit amis, frères, pères, sœurs, il faut être capable de poser des questions aussi. Des fois, hein, surtout dans des réunions de famille, là, on voit ça, c'est arrivé le 25 décembre, on a un malaise, on trouve que le conjoint, il parle mal à notre sœur. Mais c'est important de dire, hey, toi, comment ça va dans ton couple, d'ouvrir les sujets.
Mais il faut que les gens acceptent de parler aussi.
Oui, plus ça va être ouvert, plus on va dire que c'est pas honteux de vivre la violence conjugale, plus j'ai l'impression aussi que les gens vont être ouverts à en parler. Et aussi, la femme qui me parlait en fin de semaine me disait, elle était policière, elle connaissait le cycle. Il faut pas minimiser l'impact de la violence psychologique sur la capacité de voir dans quoi on est. Hein. On est comme... On perd nos repères quand on est victime de violence conjugale, mais d'avoir quelqu'un qui dit « Hey, moi, ce que je vois dans ce que tu vis, c'est ça de la violence conjugale, ça peut changer les choses. » Et à ce moment-là, elle peut agir. Elle peut appeler dans nos maisons cette femme-là et on aide à la rupture, à faire une rupture en sécurité.
En même temps, Chantal Arsenault, tous les hommes ne sont pas des agresseurs. On peut avoir parfois des discussions un peu houleuses avec notre conjoint sans pour autant se poser des questions, à savoir va-t-il retourner... Va-t-il se retourner violemment contre nous? C'est délicat tout ça parce que c'est pas ça veut pas dire que c'est automatique là.
Ben tout à fait, parce que moi je regarde dans mon couple, j'en ai des bonnes chicanes, puis c'est effectivement c'est normal d'en avoir, mais mon conjoint veut jamais prendre le pouvoir et le contrôle sur moi. Au bout de la ligne, on discute d'un sujet. Je me fais pas dire que je suis innocente, je me fais pas dire que mon point de vue a jamais rapport. Non, on va argumenter sur le sujet comme tel, mais jamais l'intention, c'est de me rabaisser, de me diminuer, de m'humilier.
Donc, il y a des signes, c'est ce que vous dites, oui.
Bien, tout à fait, exactement.
Jean-François Chabot est avec nous également. Il est avocat médiateur familial. Il a eu, au cours de sa pratique, justement, à fréquenter des couples qui étaient dans ce genre de problème, qui vivaient ce genre de problème. Bonjour, Maître Chabot.
Bonjour Isabelle.
Quand les hommes sont violents, ça se voit pas toujours. La preuve, c'est qu'à chaque fois que, au lendemain des drames, on pose des questions aux voisins, ça veut pas dire que les voisins sont les plus habilités à savoir ce qui se passe dans le couple, loin de là, mais quand même, l'entourage, les amis, les proches, souvent, tombent des nues et disent « on n'aurait jamais cru ça ». Ça aussi, ça se répète. On dirait que l'histoire se répète. C'est comme si personne ne savait rien sur rien.
Effectivement, c'est de la violence conjugale. Hein. Donc, c'est dans le monde du privé. C'est très rare. La plupart des gens, ça reste dans le monde du privé. Ça se fait dans la maison. Les gens à l'extérieur vivent une vie totalement normale, semblent avoir des relations relativement saines avec les autres personnes qui les entourent. Mais la violence conjugale a cette grande caractéristique d'être souvent cachée et c'est difficile d'aller aider justement et d'aller s'en sortir. Il y a deux aspects là-dessus. Hein. On parle souvent de la question de la victime puis aider la victime, mais moi je dirais aussi c'est la question de sensibiliser et de conscientiser les hommes à leur comportement, à leur façon de réagir. Puis quand j'entends dire le mot chicane, évidemment que moi, je suis médiateur. Donc quand je dis chicane est normal, ben pour moi, il n'y a pas de chicane normale. Si vous voulez avoir un argumentaire, vous présentez des opinions, présentez des positions, trouver des options, trouver un compromis, c'est correct. Ça, ça m'apparaît sain. C'est une conversation, c'est un dialogue. Une chicane où alors on se met à utiliser, puis là, c'est là où est-ce que la violence conjugale a ses subtilités, parce que on va dire une chicane, c'est un peu de s'engueuler. Ouais, mais déjà là, on va dépasser des limites à un moment donné. On va manquer de respect envers l'autre. On va commencer à dévaloriser. Ou encore, on va faire un petit peu de chantage derrière ça. J'entends souvent des choses, il y en a un des deux qui a pris des objets de valeur, qui cache des objets de valeur de l'autre conjoint, qui met les enfants en porte-à-faux là-dessus, qui les met en opposition avec l'autre parent. La violence psychologique, on dénigre l'autre assez facilement, on sait bien toi. On peut aller attaquer facilement. Et ça, c'est la subtilité de la violence conjugale et qui est malheureusement difficile à identifier. Certaines personnes disent « ouais, mais il m'a jamais battu ». Ouais, mais c'est pas juste ça, la violence conjugale. J'en ai rencontré des gens qui auraient préféré dire « ben moi, j'aurais préféré avoir une plaque que de me faire traiter comme je me suis fait traiter durant toute ma vie. Hein? Donc, c'est différents aspects de la violence conjugale et il y en a des aspects qu'on néglige. Mmh.
Je comprends votre exemple, mais je pense qu'il n'y a personne qui veut manger une claque non plus. Là.
Non, je comprends bien. Mais les gens disent, ouais, mais là, ça aurait été clair. Hein? Mais on ne veut pas aller là, justement. Et c'est qu'il y a beaucoup de choses avant la violence physique. Et ça, c'est important de le voir.
Mais dans tous les cas que je viens d'énumérer, là, les 5 drames familiaux là, en à peine 3 mois qui ont frappé le Québec, tout le monde est étonné aujourd'hui. Tout le monde se dit, ben voyons donc comment ça se fait, quand est-ce que ça va arrêter? Est-ce que dans 2 ou 3 semaines, il va y en avoir un autre avec d'autres enfants? Est-ce que les enfants vont mourir? Le dernier, là, les 6 enfants ont été, pour la plupart, d'après ce qu'on comprend, témoins. Ils sont pas morts, mais ils sont marqués à vie. Ils ont perdu leur mère, puis leur père est accusé de meurtre. Donc, c'est des enfants qui vont être à jamais marqués par la mort, par ce genre de drame. Est-ce que dans, ça c'est le dernier cas, mais est-ce que dans les 5 drames dont on parle ce matin, est-ce qu'on aurait pu à chaque fois prédire, est-ce qu'à chaque fois quelqu'un proche du couple pourrait dire, mais finalement, et Chantal Arsenault, je vous pose la question, est-ce que finalement on aurait pu déceler 1 ou 2 signes ici et là, et à ce moment-là peut-être bien conseiller la conjointe ou lui dire, c'est ça qu'on essaye de voir, qui peut agir ici, là? C'est la responsabilité de qui d'agir?
Bien, ça va être intéressant de voir a posteriori comment ça s'est déroulé dans le couple. Puis maintenant, on a un comité d'examen des décès en cas de violence conjugale. Donc, j'imagine qu'ils vont sûrement avoir ces situations-là à analyser. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut mettre de l'avant rapidement. Il y a des concertations qui existent dans différentes régions du Québec où c'est des partenaires qui s'assoient ensemble. Et à partir du moment où il y en a un d'entre eux, là, on parle de partenaire, on parle de maison d'hébergement, groupe pour conjoints violents, service de police, des fois les enquêteurs, service de probation, ils s'assoient ensemble puis ils regardent lorsqu'il y a un risque d'homicide, il y a des facteurs de risque qui sont analysés et ils peuvent agir. Par exemple, à Laval, on a le groupe Agir qui s'appelle justement de cette façon-là et parfois on met de la filature sur un homme qui sort de prison. Parfois, on fait des actions concertées avec la DPJ. Mais pour ça, il faut, puis on n'arrête pas de le dire, mais il faut des actions concrètes, il faut une volonté du gouvernement, puis il faut de l'argent parce que pour ces concertations-là, on peut pas faire tout ça bénévolement. Il faut des sous, il faut de l'investissement. Mais je vous le dis, à Laval, ça fonctionne. Mm-hmm. On a eu 9 cas de prévention d'homicide qu'on a fait dans cette année-ci et ça fonctionne.
On va s'arrêter ici, si vous voulez bien. On va donner la parole à nos auditeurs. Pour nous joindre, vous pouvez faire le 514-790-9850. Extérieur de la Grande Région de Montréal, c'est facile et gratuit. 1-866-790-9850. Dites-moi si vous estimez, vous, qu'il y a effectivement des solutions très concrètes qu'on connaît pour éviter un drame familial. Puis surtout, je me demande, moi, est-ce que le plus doux des hommes peut vraiment péter sa coche comme ça du jour au lendemain? Ou... il y a des signes, on les voit, mais on veut pas les voir. Puis des fois, quand on est dans le couple, c'est clair qu'on n'est pas les meilleurs pour voir que notre conjoint ou notre conjointe, parce que ça arrive aussi que ça soit l'inverse, nous dénigre et éventuellement peut s'en prendre à nous. Des fois, ça arrive, on mange une claque, on se fait tirer le bras, on se fait insulter, mais on tolère parce qu'il y a des enfants. La notion d'avoir des enfants dans le couple, vous remarquerez dans presque tous les drames, il y a présence d'enfants dans le couple. C'est sûr que ça doit être un facteur qui influence le fait que la conjointe reste au risque de sa vie. Serait peut-être telle partie s'il n'y avait pas eu d'enfant. On peut supputer plein de choses, là. Chose est sûre, c'est qu'il faut agir parce qu'on est vraiment, vraiment fatigué d'en apprendre, d'apprendre qu'il y a des femmes qui payent de leur vie pour des incompréhensions dans un couple, des malaises dans un couple, pour de la violence chez certains hommes qui ne semblent pas être encadrés, contrôlés. Il faut parler, il faut, aider les femmes victimes de violences, sensibiliser les hommes, puis les gars entre vous aussi. J'imagine que vous le savez si votre ami, si votre chum, il est un peu violent, il est un peu agressif. Il y a ça aussi, c'est pas évident. Je vous donne la parole tout de suite après. Merci d'être à l'écoute. Est-ce qu'il y a vraiment une solution qu'on ne connaît pas qui pourrait nous permettre d'éviter un drame familial? Vous venez d'entendre la présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, mon invitée Chantal Arsenault, qui disait qu'on les connaît, les solutions. Chantal, vous parliez entre autres des facteurs de risque et vous disiez qu'il faut aider les femmes victimes, sensibiliser les hommes. Jean-François Chabot est avocat médiateur familial. Il nous rappelle qu'effectivement, dans des cas semblables, il faut peut-être essayer de reconnaître les signes. René, vous en pensez quoi de cette véritable problématique qu'on vit au Québec, là?
Oui, bonjour, Madame Maréchal. Bonjour à vos invités. Bon, à chaque fois qu'on aborde ce sujet-là, on prend le problème par le mauvais bout. Mm-hmm. On va au bout tant qu'il est arrivé quelque chose, OK? Il faut trouver pourquoi, pour ces hommes-là, après une femme, la terre arrête de tourner. C'est ça le problème. Pourquoi un gars va se suicider ou il est prêt à s'en aller en prison pour une femme? OK? Moi, mon frère, la même chose. Une femme nous disait « Je ne veux plus te voir. Bonjour, goodbye. » La supplier de ne pas nous laisser la battre là-dessus, jamais de la vie. Il n'y a pas personne qui vaut la peine que je me ramasse en prison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans
Mais ça, c'est rationalisé. Là, c'est parce que René, on est calme ce matin, ça va bien, on jase. Mais quand ça va pas bien, là, que vous êtes en plein milieu d'une dispute, ça se peut qu'on pète une coche, là.
Oui, mais je veux dire... pourquoi moi j'aurais pas pété ma coche? Je veux dire, la dispute s'en vient grave, bonjour, disparaît.
Mm-hmm.
OK, alors pourquoi eux autres, on dirait que
il n'y a pas de limite, ouais.
Oui, puis est-ce qu'on les a élevés dans une monstrueuse dépendance affective qui fait que on dirait qu'ils s'imaginent qu'après, s'ils n'ont pas une femme dans leur vie, ils sont rien.
Effectivement. Merci René. Maxime, bonjour. Votre opinion là-dessus?
Oui, moi je veux dire que j'ai aidé une de mes amies qui a été dans une relation toxique pendant 2 ans. C'est très difficile. C'est très difficile. Je ne sais pas pourquoi quand on est dans cette relation-là, on voit pas les choses de la même manière. Puis moi je lui ai dit, arrête, attends pas d'avoir un coup. Parce que je dis, c'est grave, Madame Maréchal. C'est très triste.
Et est-ce qu'elle a failli?
Elle s'en est sortie.
Oui, elle vous a écouté.
Elle a quitté la maison 3 fois. J'ai dit, la prochaine fois, j'ai dit, attends pas. J'ai dit, c'est un bon gars, mais il se contrôle pas. C'était juste des choses verbales, mais c'était pas des choses fascistes. Très gentilles à dire à une femme. Ça se dit pas, ces choses-là. Il faut respecter les femmes. C'est épouvantable.
Et pourquoi vous le savez, Maxime, qu'il y a des choses qui se disent pas, qui se font pas à une femme et que l'autre gars le sait pas?
Je sais pas. Moi, dans ma vie, dans ma tête, moi, tu touches pas un enfant puis tu touches pas une femme.
Ouais.
Mais lui, il était toujours victime. Il disait tout le temps, c'est elle. C'était toujours les autres. C'était jamais lui.
Merci.
Il était toujours victime.
Merci, Maxime, de votre témoignage. Merci beaucoup. Linda, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, mon histoire, elle remonte à 25 ans.
Mm-hmm.
Avec mon ex-mari, on était en gros chicane. Puis une journée, il me sautait à la gorge. Puis pour moi, dans ma tête, une fois, c'était une fois de trop.
Mm.
Fait que j'ai décidé que c'était terminé. Puis on avait convenu d'une date de départ parce que fallait que je me retourne de bord. Je travaillais pas et tout et tout. Puis la journée de mon départ, un de mes frères m'avait donné la clé de chez lui. Parce qu'il voyait que ça allait pas. Puis il m'avait dit, si ça va pas, viens-t'en. J'avais un enfant qui avait 4 ans. Et puis, le matin du départ, lui, il m'a dit, mon ex, il y avait une carabine à la maison, puis il m'avait dit, si tu pars, il va en avoir 3 de moins sur la terre.
Oh, mon Dieu.
Fait que là, moi, j'étais prête à me battre, là, je peux vous dire, là. Je suis sortie de la maison avec mon garçon, j'ai pris la clé de chez mon frère, je suis arrivée chez eux en pleurs, mais dans ce temps-là, il avait appelé les policiers, ils ont dit, il a pas touché, on fait rien. Puis après ça, moi, je me suis en allée chez mon autre frère qui m'a hébergée pendant 1 an. Alors moi, j'ai eu du soutien. Moi, ça a été vraiment la porte de sortie. Puis on s'en sort, mais il faut pas accepter la deuxième claque ou le deuxième événement. Moi, ça a été tout de suite, c'était fini dans ma tête. Là. J'ai été comme 3 semaines, j'ai senti son pouce dans ma gorge, là, tu sais, parce qu'il m'avait fait vraiment mal. Là. Mais après ça, ça s'est tassé. Ça a été dur, ça a été très dur, la relation après, là. Mais on a fini par s'entendre, mais ça a été poli, tu sais. Ça a été poli pour la balance.
Pensez-vous, Linda, qu'il vous aurait tiré?
Oui. Oui, je pense que oui. Parce que les fils se sont touchés, il avait l'air d'un lion en cage, là. Il se promenait dans la maison, là, de long en large. Puis moi, je regardais juste la porte de sortie. C'était comme, OK, je sors par là, là. Puis ça a été la première chose. J'ai pris mon enfant. Je suis jamais retournée là, moi. J'ai tout quitté, là. Je suis partie. J'avais même pas de brosse à dents, là. Je suis partie avec mon enfant That's it. Mm. J'ai recommencé ma vie. Ça a été, comme je vous dis, ça a été difficile parce qu'après, tu te retrouves avec toutes sortes d'affaires, des dettes qu'il ne peut pas payer, ainsi et ainsi. Mais on s'en sort, on finit par sortir de ça, mais ça a fait une relation bizarre entre son père et lui. Puis aujourd'hui, il est décédé. Mais disons que il y a une belle vie après. Mais il ne faut pas se laisser faire.
Oui, c'est ça.
Moi, c'est ça.
Après, René disait tout à l'heure, dépendance affective peut-être de certains hommes?
Je sais pas, mais tu sais, jusqu'à temps que je parte, c'était correct. Tu sais, on avait décidé qu'est-ce qu'on faisait et tout et tout. Mais le matin même, là, là c'était plus ça, là.
Ouais,
c'était plus ça. Puis vraiment, là, j'ai eu peur. Parce que,
je pense qu'on sait que pour bien des hommes, c'est un monde qui s'effondre quand la conjointe émet l'idée de partir. Et ça, je pense que c'est là où il y a quelque chose, un début de réflexion à faire. Pourquoi les hommes en viennent à penser à ça? Notre premier intervenant disait pourquoi un gars est dépendant d'une femme? C'est une bonne question. Genre, les femmes, depuis les dernières générations, on nous a dit « soyez autonomes, ne comptez que sur vous ». Peut-être qu'il faudrait qu'on dise la même chose aux gars. On a des hypothèses là ce matin, on en émet plein. On a Bruno rapidement. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Ça va bien, Mme Marchand?
Oui, on vous écoute, Bruno.
Moi, j'ai un point de vue qui est un peu différent des autres face au problème. Moi, je pense qu'il y a des signes qu'on voit très, très jeunes chez les garçons, en particulier, là, où on essaie d'imposer notre façon de penser aux autres.
Ouais.
Ça commence jeune, là, 6, 7, 8 ans, 9 ans. Donc, il y a des signes là, où je pense qu'au niveau scolaire, pas nécessairement, je ne dis pas que c'est la responsabilité des parents, des professeurs seulement, mais d'expliquer que c'est important de devenir indépendant pour plein de raisons.
C'est ça.
Ça, entre autres, dire qu'on ne possède pas les gens. Donc, devenir indépendant financièrement, c'est important pour qu'on ne soit pas dépendant de quelqu'un.
Et émotivement, donc, pour son bonheur personnel, pour ne pas dépendre du bonheur des autres. On va conclure, merci Bruno, avec Chantal Arsenault, présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Chantal?
Oui, en fait, dans ce que j'ai entendu, c'est vraiment intéressant parce que ce qu'on voit, c'est des gens qui se sont mobilisés, une femme excessivement courageuse, des amis, des frères qui se sont mobilisés pour la sécurité des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Il ne faut pas oublier que les maisons, on aide aussi les femmes, mais les proches aussi. Quand on ne sait pas comment aider une amie, là, on peut appeler en maison d'hébergement. C'est très important. Puis voir les signes avant-coureurs, c'est sûr qu'un processus de domination, hein, si je veux dominer à tout prix, puis je veux être dans la vie de cette femme-là, puis elle décide de me quitter, le monde s'effondre. Mais ce qu'il veut, lui, c'est la rattraper avant tout. Fait qu'il faut s'assurer, vraiment s'assurer que la femme puisse quitter en toute sécurité.
Et là, à la rigueur, elle vous appelle, mais là, je pense que les centres sont pleins. Une femme qui nous écoute ce matin, puis pour qui notre conversation est un déclic pour vous appeler, aller donc dans une maison pour femmes victimes de violences conjugales, est-ce qu'il y a de la place pour elle ce matin?
À la Maison Lester, il n'y en a pas, mais certainement dans les environs, il y en a. Ou sinon, on fait comme la dernière dame a parlé, on regarde où la femme peut aller, on fait des scénarios de protection, on regarde avec elle les lieux, la façon de faire une rupture en sécurité. On a des services en externe, donc on peut les rencontrer. Il ne faut surtout pas arrêter de nous appeler.
Oui, d'accord. Ben, merci beaucoup, Chantal Arsenault. Jean-François Chabot, avocat, médiateur familial.
En complément de Mme Arsenault, vos intervenants, là, je pense qu'ils ont commencé à mettre des pistes de réflexion sur la table et il y en a trois qui reviennent au moins avec une idée qui est similaire, deux idées similaires, c'est-à-dire la gestion des émotions, donc apprendre à gérer ses émotions en visant l'indépendance, l'autonomie, hein, il y en a qui disait c'est pas la seule femme sur la terre, puis être capable de vivre indépendamment de cette femme qui pour laquelle la relation se termine, et ensuite la question d'éducation. Donc, vous avez posé la question à Maxime, je crois, dire, pourquoi vous, Maxime? Je pense que la réponse de Maxime, c'était à quelque part, dans la réflexion qu'il aurait pu faire, c'est ça vient de son éducation, comment il a été éduqué. Donc, ce qu'il a mentionné pour lui, on ne touche pas à une femme, on ne touche pas à des enfants. Donc, c'est une question d'éducation. Et ça, l'éducation, ça passe de plusieurs façons. De l'autre, oui, et là, il y a la question scolaire qu'on va bien mettre sur la table, bien évidemment, mais ça commence à la maison, la sensibilisation. Puis je pense que c'est le rôle de tout parent et mère et père aussi impliqué auprès de l'éducation émotive, l'éducation sentimentale de leurs enfants ou de leurs garçons, plus précisément, dire, ben voici tes limites, voici ce qui est acceptable, voici ce qui n'est pas acceptable partout en société. Donc, c'est super important. Et puis, je terminerai peut-être pour des ressources pour les hommes à considérer. Si vous pensez que, justement, vous avez de la difficulté à gérer tout ça, il y a des ressources qui s'offrent à vous à l'extérieur. Et entre autres, il y a À cœur d'homme, il y a le service d'aide aux conjoints, il y a Entraide pour hommes. Donc, il y a trois organismes qui sont facilement accessibles. Là, faites une petite recherche là, sur Internet, vous allez trouver des coordonnées.
Et si on n'a pas le temps de faire la recherche ou qu'on est tellement en désarroi, Jean-François, on peut en parler à la personne qu'on considère, tu sais, un gars au travail, il peut peut-être en parler à son chum, à son ami, au gars avec qui il joue au hockey le soir ou la fin de semaine. Il faut en parler. Parlez-en.
Il faut en parler.
Oui. Puis il faut que ça sorte, mais pas que ça sorte d'un coup avec une arme à feu ou un couteau. Merci beaucoup, Jean-François Chabot.
Isabelle, bonne journée.
Merci bien. Et Jean-François nous parlait de l'importance de l'éducation. On va enchaîner avec ça tout de suite après la pause. Vous avez vu ce matin? Là, on est inquiet de l'âge des décrocheurs au Québec. Pourtant, c'est étonnant parce qu'on nous dit que le taux de décrochage global était en baisse au Québec depuis 10 ans. On était assez contents de ça. Puis là, on vient d'apprendre ce matin, finalement, selon les derniers comptages, que près de la moitié des élèves qui décrochent ont 15 ans et moins. Or, vous le savez, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Méchant problème, on en parle après.